L'université d'été Utopia s'est penchée sur la démocratie.
Théodore Monod disait « L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais le non-réalisé ». Cette jolie phrase est la devise du mouvement Utopia, dont l'université d'été s'est déroulée à Mandelieu-Nanapoule. Dans une série de 3 reportages réalisés pour Fréquence Mistral, la première partie porte sur Charlotte Marchandise, maire adjointe de la ville de Rennes. Le 31 décembre 2016, elle remporte le second tour de la primaire.org, la première primaire citoyenne en ligne. Cependant, elle n'obtiendra pas le nombre de signatures nécessaires pour se présenter aux élections présidentielles. Dans ce reportage, dont une version complète est disponible sur Fréquence Mistral Castellane, Charlotte Marchandise évoque sa représentation de la démocratie actuelle et une vision plus participative au micro de Véronique Herman.
Charlotte Marchandise, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de l'ombre pour vous présenter aux présidentielles ?
Ce qui m'a poussée pour les présidentielles, c'est le fait d'être impliquée dans la politique locale depuis 3 ans en tant que citoyenne et de constater qu'il est possible de faire de la politique sans appartenir à un parti, ce qui pour moi était impossible. Et d'autre part, c'est aussi mon engagement féministe, puisque la primaire.org me paraissait un projet plein de futur et vraiment intéressant. Mais il y avait 200 hommes et 8 femmes dans les candidats en ligne. Et le déclencheur vraiment de m'inscrire a été de dire « je dois prendre mes responsabilités pour que des citoyens qui ont bossé, qui ne sont pas dans les partis, s'impliquent dans les politiques et pour que parmi ces citoyens, il y ait beaucoup de citoyennes ».
Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ?
Je retire d'une part qu'on n'était pas assez dans l'agenda et même si j'avais commencé à le soulever aux personnes de la primaire.org, si on veut hacker le système, il faut connaître le système. Et donc 2 mois pour trouver les parrainages, c'était beaucoup trop court. Et même si on l'avait dit, on dit « ah mais non, ça va vite », non. Ça va pas vite, les élus locaux ont besoin de temps et on avait besoin de ce temps-là. D'autre part, c'était important pour nous d'appliquer nos principes de gouvernance partagée dans la campagne électorale. À un moment donné, ça aurait été peut-être un peu plus pertinent d'avoir une directrice ou un directeur de campagne qui connaissait mieux les mécanismes internes, qui aurait permis par exemple de faire un 20h et ça aurait changé les choses. Parce que médiatiquement, on n'a pas été assez existant. Alors il y a plein de journalistes qui se sont battus pour parler de nous et c'était important et c'est vraiment pas une critique du journalisme en général, sauf qu'il nous a manqué un grand média national à un moment donné. Et avec toute la bonne volonté et toutes les compétences qu'on avait, ça demandait des compétences spécifiques politiques. À part ça, moi j'en retiens aussi les milliers de rencontres incroyables, le fait de faire le tour de France et de changer le regard sur la politique et tous les gens qui sont impliqués pour la première fois dans leur vie, tous ces gens qui ont dit « bah tiens, ça me donne envie d'y aller ». Finalement, ça peut être beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je me sens compétent pour y aller parce que tu m'as transmis ça et c'est sans doute ce qui en valait la peine.
Qu'est-ce que la Civic Tech a apporté en fait ?
La primaire.org, elle a ouvert une brèche, elle a mis en place des nouvelles technologies. C'est la première fois qu'on votait en blockchain, donc dans quelque chose de sécurisé où la sécurité n'est pas sur un serveur central mais bien dispersée chez les personnes. C'était la première fois qu'on votait au jugement majoritaire, donc on ne votait pas pour une personne, on évaluait l'ensemble des candidats. Donc des petites révolutions. On a eu 30 000 votants, c'est quasiment 2 fois plus que LV. C'était une vraie brèche, une vraie ouverture, une fissure dans un système très certainement à bout de souffle. Est-ce que c'est la primaire.org qui va être là la prochaine fois ou est-ce que c'est d'autres mécanismes de ce qu'on appelle la civic tech, donc les technologies autour de la démocratie? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça donne envie de multiplier les expérimentations et de dire on essaye et la technologie doit être au service de l'usage citoyen et non l'inverse.
Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous impliquez?
Alors, je suis toujours maire adjointe à la ville de Rennes en tant que citoyenne et j'aimerais bien qu'on tire collectivement le bilan des législatives avec énormément d'abstention, avec un échec très cuisant pour, on va dire, la gauche progressiste en général, mais comme sur la présidentielle, parce qu'il n'y a pas d'union, parce que le projet plus global qui rassemblerait, il me semble, qui est la constituante, qui est de repenser, qui est de sortir de la pyramide présidentielle qu'on a, n'a pas été suffisant pour qu'on se débarrasse des égos des partis. Donc je continue à être adjointe à la ville de Rennes et à mettre en place des processus participatifs citoyens et d'éducation populaire dans mon mandat. Je suis présidente d'un réseau d'élus, tous les uns et les autres, les adjoints à la santé de 90 villes en France. On est tous en réflexion sur notre posture, sur notre place d'élu, sur quel sens on y met et comment on fait en vrai pour améliorer la santé des habitants et faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades. Puis à ce titre-là, j'interviens aussi au niveau européen. Donc ça nous permet de voir 3 niveaux, local, national et municipal. Et ensuite, mon autre engagement, c'est de continuer à partager ma vie d'élu comme je le fais depuis le départ et à transmettre tout ce que j'ai pu acquérir pendant ce temps pour les suivants qui voudront aller au municipal et dire voilà comment ça se passe, voilà ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, voilà les questions qu'on se pose, les limites où on essaye parfois que les gens participent, ils ne participent pas. On met tout ça au pot commun pour que les mouvements en commun se le réapproprient, en fassent quelque chose de nouveau et s'en emparent. Donc c'est aussi être vraiment au service de ce nouveau mouvement politique citoyen qui émerge.
Comment trouvez-vous les nouvelles réformes du gouvernement actuel ?
J'ai même pas envie. Voilà, je suis sans mots. Je suis sans mots parce que quelqu'un qui s'est prétendu pragmatique, qui s'est prétendu dans une nouvelle forme d'approche politique, et c'est là-dessus qu'il a été élu, et on a partagé, on nous a dit, avec des mouvements citoyens comme la Belle Démocratie, qu'on avait beaucoup de choses en commun avec la démarche d'Emmanuel Macron, on était d'accord sur plein de constats, sauf que les solutions, c'est pas du tout les mêmes. Donner plus aux riches et enlever aux pauvres, c'est globalement ce que je retiens des réformes, hein, si je devais les résumer. Et c'est pas mon projet de société. C'est pas mon projet de société. Et surtout, pour les riches, c'est pas bon. On sait aujourd'hui qu'une société avec énormément d'écart entre les plus pauvres et les plus riches, c'est aussi négatif pour les riches, y compris sur leur santé mentale, sur leur santé physique. C'est pas gagnant-gagnant. Y compris au-delà du politique et de l'idéologie, y compris pragmatiquement, ça marche pas. J'ai du mal à comprendre, mais j'ai aussi du mal à comprendre qu'on n'ait pas été plus fort pour lutter contre ça. Et j'ai aussi du mal à comprendre qu'on se retrouve à nouveau dans la rue à débattre de si la rue a du pouvoir ou pas, alors qu'en fait, on devrait tous être en train de réfléchir à la nouvelle constitution. Et c'est surtout ça. Et moi, je suis très agacée parce qu'on s'est planté collectivement en ne mettant pas l'intérêt général en premier. Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand la démocratie se limite à l'exercice du vote tous les 5 ans ? Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand, de toute façon, on peut faire des promesses qui ne sont pas tenues ? Ou quand un président dit « mon ennemi, c'est la finance » et on l'élit là-dessus et il ne faut pas du tout ça ? Quand un président dit à l'ONU « je vais sauver les réfugiés » et dire que « make the planet great again » et derrière, je fais du glyphosate et j'enlève les soutiens aux agricultures bio et j'empêche les réfugiés d'avoir accès à l'eau ? À quel moment on recrée de la confiance ? Et la démocratie, il y a quand même une base, c'est la confiance et la transparence. Quand on ne veut pas s'attaquer directement à ces questions-là, sans dire ils sont tous pourris, mais vraiment mettre en place des garde-fous et des systèmes contre la corruption. Et ça, Emmanuel Macron s'y était engagé. C'était un vrai beau projet, on ne le voit pas. De dire, ben voilà, on va vous donner une feuille de route concrète. Voilà ce qu'on va faire, en combien de temps et comment on va le faire avec. La démocratie n'est pas là. Alors, 24% des gens qui votent, c'est la conséquence de toutes ces promesses reniées tout au long de ces années. Il y a les grandes promesses et puis il y a toutes les petites corruptions que les gens voient au niveau local, toutes les petites trahisons permanentes sous prétexte de réel politique. J'ai le sentiment, et c'est aussi pour ça que je me suis engagée en politique, qu'on a oublié d'avoir une vision et que la politique est devenue technocratique à un moment où en fait la politique elle devrait entraîner les gens vers un projet de société plus beau, plus fort, plus porteur. Et donc effectivement on fait des promesses où tout le monde accepte, y compris parfois même dans la presse, de façon publique, qu'elles ne seront pas tenues. Et c'est dramatique.
Quelle est votre projection de l'avenir ?
Je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste sur l'avenir immédiat. Je suis beaucoup tous les mouvements autour de l'effondrement, notamment le travail du collapsologue Pablo Servigne et des autres. Je pense qu'on va vers une série d'effondrements écologiques, climatiques, de santé des populations. C'est mon sujet. Les maladies chroniques, la pollution, le tabac, l'alcool va faire que nos systèmes de santé vont s'écrouler parce qu'on va pas pouvoir tenir ça. Économiquement, le pétrole, enfin voilà, on va avoir des effondrements et je ne suis pas très optimiste. En revanche, je suis convaincue qu'on peut créer des résiliences locales. Moi, je suis convaincue que les gens, et je le vois, même dans des conditions extrêmes, peuvent être solidaires, peuvent se transcender et sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et que des résiliences locales auront d'autant plus de chances d'exister qu'on aura mis en place plein de groupes là, de transition, même si parfois ça paraît vain, même si parfois les uns et les autres, on a l'impression de vider la mer à la petite cuillère. Et bien, tout ce qu'on aura mis en place, le fait que des gens se parlent dans la rue et qu'ils aient au moins une fois, étaient à la MAP ensemble. Le jour où il n'y a plus d'eau, ben peut-être qu'ils penseront à la petite grand-mère qui n'aura pas d'eau et mettront en place des systèmes de solidarité et auront l'idée des solutions qui existent pour réagir à un monde qui, de toute façon, n'est pas soutenable en l'état actuel des choses.